Bonsoir à toutes et à tous, ici c'est COP Paris, bienvenue dans votre émission consacrée à l'actualité du Paris Saint-Germain, tous les lundis en direct de 19h15 à 20h en direct sur BFM Paris Île-de-France. Et ce soir, pour m'accompagner, un pilier du vestiaire, un leader dont aurait bien besoin le PSG en ce moment, c'est François Bessette. Bonsoir François.
Bonsoir.
Et une toute nouvelle recrue ce soir dont on attend beaucoup, c'est Soane.
Ah, bienvenue. Bonsoir, mais quelle pression, merci, c'est gentil.
Ça va?
Tu te sens bien? Ça va, bah, très bien. François est très sympathique.
Bon, et puis en plus, il y a une actualité chargée une fois de plus pour le PSG. Cette semaine, après une semaine riche en rebondissements, le PSG se déplaçait à Nice et n'a pu faire mieux qu'un match nul hier soir, pas rassurant et toujours aussi frustrant. Nous reviendrons sur cette prestation. Avec ce résultat, le PSG n'est plus leader du championnat. Des leaders, justement, est-ce que Paris en a vraiment? Des cadres trop discrets ou blessés? Un milieu trop tendre et une attaque sans vrai numéro 9? Où sont les leaders au PSG? Faut-il changer de capitaine ou recruter? C'est la question auquel nos chroniqueurs tenteront de répondre. Et enfin, le pari fou que se sont lancés deux amis, un supporter parisien, l'autre marseillais, de rallier le stade Vélodrome depuis le Parc des Princes, le tout à pied. L'objectif, arriver le jour du classique pour assister à Marseille-PSG le 27 octobre prochain. On parlera de ce défi avec Melvin, l'un des deux supporters à faire ce pari. Et bien sûr, tous les résultats foot et omnisports de vos clubs franciliens. C'est parti pour COP Paris. Et l'info du week-end, c'est que Paris n'est plus leader du championnat. Paris est deuxième avec 17 points et Monaco est premier maintenant avec 19 points. Paris a donc fait match nul à Nice avec un début de match très compliqué. Avec le premier but de la partie des Niçois à la 39e suite à un corner et une frappe contrée de Abdi pour Nice. Son premier but de la saison, Donnarumma n'a rien pu faire. Mais Paris s'est rattrapé en seconde période grâce au pied droit de Nuno Mendes à la 52e minute sur une passe de Dembélé. Paris aurait même pu gagner ce match grâce à Marquinhos qui a trouvé le poteau deux minutes après l'égalisation parisienne. Match nul, un but partout donc et une nouvelle frustration pour le PSG. La conséquence au classement, c'est que le PSG avec 17 points n'est donc plus leader et passe deuxième derrière Monaco avec 19 points. Soane, qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi?
Bah comme le score en fait, un partout, c'est vraiment un bilan en demi-teinte. Première occasion à la 26e minute, vraiment c'est là où ils sont rentrés dans le match. Une première mi-temps, franchement, on était derrière la télévision, c'était long, c'était lent. On avait l'impression que le Paris Saint-Germain avait peur limite d'y aller. Deuxième mi-temps, ça va, Mendes met un but, mais franchement, c'est compliqué. Après, j'ai entendu des mots comme catastrophique, naufrage. Je pense que c'est très dur, parce que je pense que vraiment, la deuxième mi-temps, ça allait, mais c'est pas le PSG qu'on connaît, quoi. Pas du tout.
Ça va, toi, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu trouves que le résultat reflète un peu la physionomie du match?
Oui, un match de football, c'est deux mi-temps déjà, donc on peut pas espérer gagner. En plus, Nice, qui est plutôt une équipe... Alors, qui a pris une volée à Rome en Europa League, mais c'est une équipe qui essaye, voilà, avec un projet de jeu, avec son nouveau coach Franquès, de proposer quelque chose. On ne peut pas proposer cette première mi-temps et se dire, bon, bah, sur la deuxième, on aurait dû gagner. C'est un des vrais sujets peut-être de la saison, c'est la constance première et deuxième mi-temps, et également ce qu'on propose, avec quel joueur et comment. Et je trouve que le match d'hier... Ça a été, comme tu l'as dit, ça a été très long à démarrer, beaucoup de mal à créer une occasion.
En fait, on s'ennuie, quoi.
On
s'ennuyait pas avec le Paris Saint-Germain, maintenant on s'ennuie vraiment. Enfin, les matchs sont longs, quoi. Quand on est au parc, on est abonnés tous les deux, on le sait, le temps est long. Même les supporters en ont marre, quoi.
Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, le match à Londres a été très compliqué dans l'impact physique, mais même dans les idées de jeu, ça a été compliqué.
Vous attendiez quoi de ce match par rapport à la défaite?
Lequel? Londres?
À moi, une victoire. Je m'étais dit, franchement, les deux premières semaines du Paris Saint-Germain, cette saison était vraiment cool. On s'est vraiment dit que c'est sa meilleure saison limite. Et au final, non, quoi. Donc, c'est une déception. On a l'impression qu'en fait, ils n'arrivent pas à remonter. Il y a c'est constant. C'est moyen.
Et je sais pas si je m'attendais à autre chose, en fait. Parce que pour moi, mardi, on a pris une réalité en face. En pleine face. C'est objectivement. Dans les idées, dans le schéma de jeu, dans l'intensité, on a vu ce qu'était le PSG face au top niveau. Attention, hein, en face c'est Arsenal, une très bonne équipe qui progresse depuis 3-4 ans avec Mikel Arteta. Mais objectivement, je me demandais, est-ce qu'on pouvait voir autre chose en fait? Est-ce qu'on a les joueurs, le banc, pour mettre plus d'intensité, pour proposer autre chose? L'année dernière, le coach Enrique parlait de préparer la saison d'après dans... ce qu'on allait voir offensivement avec son plan de jeu.
L'après Mbappé, même si c'est venu.
Mais c'est ça, l'après Mbappé, c'est-à-dire il faut qu'on puisse marquer avec 3-4 joueurs différents. Bah, le, La blessure de Gonzalo Ramos fait beaucoup de mal au PSG.
D'Hernandez,
je pense
aussi,
que
hein.
tout le monde s'en rend compte. Lucas Hernandez, mais là, plus sur quel est le pilier de la défense. Mm. Un peu moins peut-être sur les questions d'animation offensive. Mais objectivement, on n'a pas de neuf. Colomwani, je pense que tout le monde a compris, ce n'est pas un neuf.
On va en parler.
Mais surtout pas un neuf avec quand tu as la possession du ballon. Parce que quand il joue à l'Eintracht, c'était un neuf, mais beaucoup plus en contre-attaque. Le PSG ne peut pas jouer en contre-attaque. Donc, est-ce que j'en attendais autre chose ? Malheureusement, je dirais non.
Bon, on le disait tout à l'heure, c'est l'info de la soirée, c'est la perte de la première place pour le Paris Saint-Germain, mais il y en a un que ça n'inquiète pas. Au contraire, c'est Gianluigi Donnarumma qui est l'objet de plusieurs critiques. Justement, on lui a posé la question sur cette perte de la première place. Voici ce qu'il répond.
C'est encore loin, c'est pas fini, c'est commencé maintenant. Et c'est pas grave, mais on va améliorer la prochaine match et ça c'est important. Je suis content parce qu'à l'extérieur, c'est combien de matchs qu'on ne va pas perdre, 27 matchs. Et ça, c'est important, mais l'équipe est venue ici pour chercher la victoire et dommage.
Swan, est-ce que tu es d'accord avec Donnarumma ? C'est pas grave ou bon ?
Mais en fait, c'est quoi l'objectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'objectif de gagner, d'être vraiment numéro 1 de la Ligue des Champions ou est-ce que c'est de construire une équipe dans la durée ? C'est ça la question. Et je pense que Luis Enrique et même que le président du club veut vraiment construire une équipe dans la durée, sinon on n'aurait pas eu ce mercato-là. Enfin, on n'a pas eu un milieu exceptionnel, on n'a pas fait un transfert de renom comme chaque année. À chaque fois, chaque année, on a le droit à un nom qui sort, voire deux, voire trois. Et là, pour le coup, on a l'impression qu'il essaye de former un collectif qui doit s'inscrire dans la durée. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas une certaine pression dans les vestiaires, ni même de la direction. Parce qu'en temps normal, un match comme ça que tu perds, mais dans les vestiaires, mais je pense qu'Enrique,
c'est
franchement...
Perdu, c'est match nul. Hein,
oui, non, mais d'accord. Voilà. Mais tu perds face à Arsenal, t'as fait avoir une semaine noire. Heureusement que t'égalises, sinon catastrophe, quoi. Enfin, c'est Nice, c'est pas une équipe. Voilà, c'est Nice, c'est super, mais ça reste Nice et on est au PSG, quoi.
Allez, on va enchaîner en vous montrant notre top flop parisien après ce match nul face à Nice. On vous a mis en top Nuno Mendes, nouveau buteur et sauveur, encore une fois, pour le PSG. Il a été l'un des joueurs parisiens les plus en vue. On aurait même pu mettre Marquinhos, qui a été solide et qui aurait pu offrir la victoire au PSG. Côté flop, c'est Zaïre Emery qui hérite du bonnet d'âne sur ce match. Très discret hier, depuis même plusieurs matchs, il a semblé parfois dépassé physiquement et tactiquement. François, est-ce que tu es d'accord avec ce top flop ?
Sur le flop, oui, ça me fait de la peine, parce que c'est un titi parisien, que le club l'année dernière l'a surutilisé, même fait revenir de blessure beaucoup trop tôt, parce que personne d'autre pouvait soutenir le navire. Mais bon, malheureusement, hier, il fait un très mauvais match, il fait un mauvais début de saison. Sur le top, je vous trouve assez gentil. Moi, j'aurais mis Marquinhos.
Ouais.
Marquinhos qui défensivement a rattrapé un paquet de boulettes de ses copains. Ok, oui, bah, malheureusement pour lui, il tape le poteau, mais c'est quand même souvent celui qui est obligé de compenser beaucoup de faiblesses au milieu ou sur les côtés. Et Nuno Mendes, oui, il marque, donc en fait, on le retient pour ça. Je trouve que défensivement, c'est compliqué.
D'accord. Tu aurais mis quelle note à ce match-là, de manière générale, très rapidement ?
Juste le match ?
Ouais. Sur 10.
De la part du PSG, on est sur 3,5.
Ouais. D'accord. Swan ?
J'aurais mis 4.
Bon.
Parce que je suis plus gentil que François.
Et ben, en parlant de notes, tiens, la question a été posée à Luis Enrique, le coach parisien, à qui on a demandé quelle note il mettait au début de saison de Paris. Et Luis, ça fait du Enrique.
Yo no soy de poner notas.
Je ne suis pas du genre à donner des notes. Les notes se donnent à la fin du cours. Quand la saison se terminera, on verra la note. Mais pour l'instant, ça me semble un début prometteur. J'aime ce que je vois. Je pense que c'est un bien meilleur début que la saison dernière. Mais il manque l'essentiel, qui est de gagner le championnat et de pouvoir se battre pour tous les titres. Nous sommes qu'au début de la saison.
Estamos en el inicio de la temporada.
Eh ben, c'est un bon mathématicien, Luis Enrique, puisque 17 points après cette journée, cette saison, c'est un meilleur départ que la saison dernière, où il y avait 12 points à la même époque. Est-ce que, finalement, on n'attend pas trop du PSG ? Est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus patient avec ce Paris Saint-Germain-là ?
Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que de toute façon, il y a toujours une grande attente avec le PSG depuis qu'ils sont dans l'ère qatarie, de toute façon. Et dès qu'ils perdent, bah, c'est nul, et dès qu'ils gagnent, c'est normal. Donc, il faut trouver un juste milieu aussi. On vient de commencer, bon, la trêve arrive, et on se dit... Ok, bon, ils sont deuxième. Pour moi, ils peuvent remonter. Ils vont remonter. Je pense même qu'on sait qu'ils vont terminer premier. On en parlait avec François. Pour moi, c'est une évidence. Non, ça a changé. Ah non ?
Non, je pense vraiment qu'on sera champion.
Ah, mais bien sûr.
Mais peut-être pour une fois avec un peu moins d'avance que d'habitude. Si Monaco continue à chaque week-end à faire des prestations abouties, après, la Coupe d'Europe, ça risque de leur peser dans les jambes. Oui, on sera champion, sans doute. Mais il faut qu'on voit autre chose.
Mais on a un autre effectif. Regarde le collectif qu'on a aujourd'hui, c'est totalement différent.
Mais c'est là où je suis d'accord, mais auquel cas, c'est... En fait, il y a une attente des gens par rapport au budget. Mais tout le monde s'est cru dans une partie de Football Manager, en fait. Mais les moyens du PSG sont tellement supérieurs à ceux d'autres équipes de Ligue 1. Marseille, Lyon, Rennes, Monaco, des équipes qui sont censées venir nous embêter tous les ans. Nos revenus sont tellement supérieurs qu'on attend autre chose. Et déjà, on attend autre chose sur le terrain parce que le PSG de Zlatan avait construit quelque chose footballistiquement intéressant. Finalement, qu'on n'a pas trop retrouvé, hein. Il y a quelques années, on a retrouvé un peu de footballistiquement du mieux avec Emery ou avec Tuchel. Mais globalement, on est en droit d'attendre quelque chose d'autre.
Très rapidement, parce que la pub va bientôt arriver, juste un petit mot sur un autre fait marquant du match qui est un peu passé inaperçu, c'est Kolo Muani. Malheureusement, dans tous les sens du terme, il a été remplacé à la mi-temps. Est-ce que la gestion de Kolo Muani par Luis Enrique est en train de tuer un petit peu Kolo Muani cette saison ?
Moi, je ne suis pas d'accord. Non. Je pense que c'était justifié, il n'a pas fait un bon match du tout. Lee est revenu, ça a complètement changé. Lee, c'est un peu un 9,5 finalement, parce qu'il est quand même très offensif, il perd très rarement le ballon. Donc c'est Kolo Muani, il faut dire les choses, bah, parfois c'est un peu compliqué, quoi. Et moi, je pense que... Enfin, Enrique, il fait les bons choix. Il est pas OK, bah il le met sur... Enfin, c'est l'entraîneur, tu vois, c'est dans
est-ce
une salle de classe.
C'est le poste de numéro 9 qui est un peu compliqué.
Ah, mais complètement.
D'accord.
Complètement.
Mais
moi,
et
je
le contexte aussi. 9, peut-être qu'il n'est pas fait pour ce club, que malheureusement, dans la confiance, bah, ça fait maintenant un an et demi qu'il est là. Il n'y a jamais eu les occasions pour briller. Pour lui, c'est terrible.
Mais bien sûr que si. L'année dernière, il lui mettait tout le temps titulaire, Enrique. Il a fait, je crois, les 6 premiers matchs de Ligue des Champions. Il était titulaire. Il n'a jamais su se démarquer.
Oui, mais dans un collectif où Mbappé prenait tous les ballons. Où il désaxait Axe, où il revenait sur le
et
côté.
Et pourtant, il met Zaïre Emery à briller, donc Mbappé, c'est pas une excuse pour tout.
Non, mais on est d'accord.
Est-ce que finalement, la trêve, elle arrive pas au bon moment pour à la fois le Paris Saint-Germain et ses joueurs ?
Mais ils vont tous partir en sélection, donc ils vont tous continuer à jouer.
Ouais, ils vont
tous
changer d'esprit.
De mindset
d'esprit.
Un petit peu. Ouais, voilà. De toute façon, là, ça va pas. Je pense qu'il y a un truc qui va pas.
Mais est-ce que c'est même pas physique ? Non, mais on le voit dans tous les grands clubs européens, hein, parce qu'il n'y a pas que Paris, hein, qui a perdu un match bidon
évidemment.
En Ligue des Champions.
Oui, bien sûr.
Et pourtant, nous, on joue à Arsenal. Ouais. Le Real a perdu, le Bayern a perdu. Enfin, tous les gros perdent. Les joueurs sont exténués. Il y a peut-être trop de matchs aussi.
Allez, le problème des leaders, c'est le thème que nous aborderons dans cette deuxième partie de COP Paris avec Swan et François, et qui aura des choses à nous montrer, d'ailleurs, notamment des maillots. On se retrouve tout de suite après une page de pub. De retour dans COP Paris pour cette deuxième partie d'émission, toujours avec Swan et François, avec surtout un immense thème qu'on a très hâte d'aborder, c'est celui des leaders à Paris. Donnarumma critiqué, un Marquinhos discret, un milieu de terrain tendre et une attaque en manque de référence. Est-ce que Paris manque de leaders ? Les amis, je vous refile la patate chaude, est-ce que c'est le cas ou pas ?
Ben moi, c'est un grand oui. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais...
Je pense que c'est un grand oui aussi.
Ah, mais c'est évident, je pense qu'il mise sur Dembélé ou Barcola. Mais c'est pas suffisant. Enfin, Dembélé, on peut pas dire, par exemple, en prenant l'exemple du match face à Nice, il a pas fait un mauvais match. Mine de rien, il a fait une passe décisive. Il est toujours là où à peu près où on l'attend. Mais pour le moment, il nous manque quelqu'un qui sort du lot. Après, t'as leader moral et t'as leader technique. C'est t'as leader moral, t'as Marquinhos, qui est quand même le leader moral de l'équipe. On a besoin qu'il soit là, etc.
Technique aussi, hein, sur le match d'hier, c'est le meilleur Parisien. Hein.
Ouais, mais pour moi, il en faut un plus au milieu ou en attaque, tu vois. Il manque un Ibra, il manque une mentalité comme ça, il manque quelqu'un de fort qui, même un Neymar, mine de rien. C'était entre guillemets, excusez-moi du terme, une tête de con, mais c'était un leader aussi. Il impulsait quelque chose.
Non, c'était un joueur de grand talent, mais là, est-ce qu'on est sur les leaders ou est-ce qu'on est sur les joueurs de talent confirmés ?
Pour moi, ça peut aller avec. Tu peux être un joueur de talent confirmé. Tu vois, Cavani, par exemple, on en parlait, c'est notre joueur préféré. C'est pas un leader parce qu'il dégage pas ce truc de suivez-moi, écoutez-moi ou alors prenez exemple sur moi. En revanche, c'est un joueur extraordinaire. Et t'as un Ibra qui est pareil que Cavani et qui dégage quelque chose. Enfin, c'était lui qui dirigeait le vestiaire, c'était pas Laurent Blanc à l'époque.
On est totalement d'accord, mais c'était la chance de ce PSG-là qui avait des joueurs d'expérience. Parce que tu parlais de soit des leaders moraux, soit des leaders par le jeu, mais il y a également par l'expérience, par le palmarès. Ce PSG Leonardo 1 était extraordinaire. Il y avait des joueurs comme Maxwell, Mota, même Alex, un joueur qu'on a finalement plutôt oublié à Paris. Oui. Mais Alex en défense, c'est un joueur d'expérience. Thiago Silva, or qui lui s'est affirmé comme taulier, parce qu'à Milan, oui, il avait fait des choses très bien, mais il n'avait jamais rien gagné, ni avec le Brésil, ni avec Milan. C'était un équilibre. Au-delà du fait qu'il nous manque des leaders cette année, c'est qu'on a beaucoup de joueurs très jeunes,
ouais.
Mais le vrai leader du PSG, c'est dur à dire, c'est l'entraîneur.
Oui, mais
et à mon sens, c'est risqué.
En fait, l'entraîneur aujourd'hui, Luis Enrique, peut-être que je fais un hors-sujet, mais pour moi, c'est un entraîneur qui aurait été parfait pour une équipe avec plein d'ego. tu prends plein de Mbappé à la place de Barcola, de Dembélé.
Regardez, il y a la moyenne d'âge des équipes en Ligue 1 avec Strasbourg qui est premier, mais la deuxième, c'est le PSG avec 23 ans et 9 mois de moyenne d'âge. À l'échelle européenne, en Ligue des Champions, par exemple, Paris est quatrième. C'est Salzbourg, la première, avec 21 ans et 8 mois de moyenne d'âge. À titre de comparaison, on vous rappelle cette saison, parce qu'on parle des leaders, le capitaine, c'est Marquinhos, c'est les vice-capitaines, c'est Kimpembe, Donnarumma et Hakimi. Donnarumma fautif sur les buts encaissés contre Arsenal, souvent pointé du doigt. Et bien justement, l'Italien s'est pointé en zone mixte après le match et voici ce qu'il répond aux critiques le concernant.
J'ai l'épaule très grande et il ne me touche pas. C'est pas grave. Je suis content de moi. Je suis content de travailler avec cette équipe. Tout le monde sait qu'on va faire beaucoup d'efforts pour améliorer. Il y a longtemps qu'on ne fait pas le cliché et ça, c'est une autre chose à améliorer.
Et il y a beaucoup de choses à améliorer, sachant que, pour rappel, le dernier clean sheet en Ligue 1 du Paris Saint-Germain remonte au 23 août. Victoire 6-0 ouais. Contre Montpellier à domicile. Swan, le dernier clean sheet, on en parlait justement. Est-ce que du coup, toi, tu préfères avoir des leaders en attaque ou en défense ?
En attaque.
Pourquoi ?
Mais en fait, après, ça va à l'encontre du jeu de Enrique, je pense, parce que là, ce serait Enrique, il aime la possession. Mm-hmm. Moi, j'aime quand ça va. Enfin, quand ça avance et quand tu marques et quand tu vas. Et pour moi, les joueurs ont peur. Il manque des joueurs qui se créent des occasions, des joueurs offensifs qui vont y aller. Là, vraiment, tout le monde se passe la balle, ça dure longtemps, personne ne veut y aller. T'as Mendes qui tire au loin, ok, Dembélé qui peut faire une action. Mais pour moi, il manque un leader en attaque. On se dit, c'est bon, il est là, il va y aller. Je ne l'aimais pas forcément, mais comme un Mbappé à l'époque. Et finalement, au début, quand il avait la balle, on s'est dit, ok, il va faire le job, quoi. Aujourd'hui, on ne l'a pas.
On le disait, Marquinhos capitaine, Hakimi, Kimpembe, Donnarumma vice-capitaine cette saison. On a voulu voir avec Jordan Le Sueur, notre chef d'édition, le nombre de matchs que ces joueurs comptaient avec le PSG, leur classement dans l'histoire du Paris Saint-Germain, pour voir s'ils ont quelque part vraiment l'âme de leader. Marquinhos, c'est le recordman, ça c'est connu, mais derrière c'est Kimpembe, seul joueur formé au club parmi ces sages, mais blessé depuis 589 jours. Il a plus joué avec le PSG depuis le 26 février 2023. C'est pas 2024, c'est 2023. Et une victoire 3-0 du PSG à l'OM. Derrière Hakimi, avec 127 matchs, Donnarumma et Vitinha. Alors on vous a mis le milieu portugais parce qu'il a porté le brassard il n'y a pas si longtemps que ça. Donc où situent les capitaines et vice-capitaines cette saison dans l'histoire du club? François, à ton avis sur ces capitaines qui, on le rappelle, ont été élus par les propres joueurs? C'était une volonté de Luis Enrique au début de la saison.
Bah, ça manque de taulier en fait.
Ouais.
Marquinhos, oui, mais de façon incontestable. Alors certains diront qu'il a été de toutes les épopées qui se sont mal terminées, mais leader incontestable, respecté. Mais derrière, Kimpembe, quand bien même il pourrait être respecté des plus jeunes, parce que c'est un titi, il a prouvé qu'on pouvait grandir au sein du Paris Saint-Germain, il est blessé depuis 2 ans. Et c'est terrible, parce que c'est sans doute un joueur qui a un rôle modèle dans le vestiaire pour les plus jeunes quand ils doivent s'intégrer. C'est quelqu'un qui fait l'effort. C'est ce qu'on lisait dans ouais. L'équipe récemment. Il a fait l'effort d'intégrer les nouvelles recrues. Mais ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il n'est pas sur le terrain. Hakimi, Vitinha...
Vitinha n'est pas à son fort niveau, là.
Le début de saison est compliqué. Ouais. Et ce n'est pas forcément des joueurs qui ont un passé qui leur permet de s'affirmer et d'emmener tout le monde avec eux. Ce sont des bons joueurs. On va espérer qu'ils continuent à s'affirmer. Mais en fait, ça manque de leader, même juste par expérience.
Toi, t'es le meilleur passeur des chroniqueurs parce que tu me fais une super passe. Swan, c'est très simple. Oui. Quel type de leader, toi, tu voudrais? Est-ce que tu voudrais un aboyeur, un leader technique, un leader moral, mais de vestiaire, comme tu disais tout à l'heure? Quel type de leader tu voudrais, toi, au PSG?
On a déjà un leader moral, je pense, de vestiaire. Et je pense que chacun joue son rôle. Pour moi, c'est plus un aboyeur. Il manque quelqu'un qui, plus, même rivaliser avec Enrique, mais de façon intelligente. Pas comme Mbappé faire sa loi, entre guillemets. Il manque quelqu'un qui va entraîner l'équipe et
Zlatan.
Qui va... Voilà, un Zlatan. Franchement, après, malheureusement, un Zlatan, t'avais un Verratti qui se cachait derrière et t'as un Cavani qui était effacé. Donc aussi, il faut un entre-deux. Entre Zlatan j'ai même pas d'exemple, mais un Zlatan moins, voilà.
François, toi, je crois que tu avais des choses à nous montrer et à expliquer, parce que ton leader, toi, on va dire idéal, ce serait... tu les as ramenés avec toi, en fait. Explique-nous tout.
On va commencer par un joueur, c'est un maillot qui date un peu. Pour ceux qui se rappellent, une très belle victoire en Coupe de France face à Châteauroux en 2004 au Stade de France. Et le joueur dont je voulais parler, c'est Gabi Heinze. Gabi Heinze, certains vont dire, il est passé par l'OM. Certes, mais quand il a proposé de revenir au Paris Saint-Germain, on lui a fermé la porte. Parenthèse refermée. Gabi Heinze, pourquoi? Parce que c'était un joueur qui ne lâchait rien, qui se battait. Et ça, dans l'image, quand on joue avec ce joueur, on se dit, on a envie d'y aller. On a envie de se battre. Le mec ne lâche jamais. Et avec lui, il y avait un certain Juan Pablo Sorin qui n'a jamais perdu. Donc ça, c'est un leader par l'exemple.
Il est passé par Marseille, ça ne te dérange pas, ça va?
Non, mais ces trois plus belles années ont été à Paris.
Pas décisif pour la troisième partie, je crois.
Ouais, mais pas tout de suite.
Mais pas tout de suite. Non, ça ne me dérange pas parce qu'il est bien parti. Il a essayé de revenir et à l'époque, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas faire appel à lui. À un moment, il a envie de jouer, il joue. Et c'est avec quelqu'un qui a toujours respecté l'institution du Paris Saint-Germain.
Mais c'est grâce au PSG qu'il a été sélectionné en Argentine en plus, je crois.
Et qu'après, ouais. il est parti à Manchester, à Madrid. Mais un joueur avec vraiment un vrai passé. Donc ça, c'est pour le terrain.
Et non pas un, mais deux maillots.
Et deux maillots. Or celui-là,
non pas un, mais deux leaders.
Les gens le connaissent. Mais c'était mon leader. Alors, maillot récent.
Tu viens de l'acheter, hein?
Alors non, il n'est pas acheté. C'est juste que quand on collectionne, bah, parfois on ne les porte
d'accord.
pas.
Excuse-moi, François.
Danilo.
Ah oui.
Et bien Danilo, c'était le capitaine courage. C'est le mec, sur les matchs compliqués, on l'a mis en défense centrale, on l'a mis au milieu. Dans des matchs où tout le monde disait, il n'est pas technique, il ne va pas réussir lorsqu'il y avait Manchester City ou d'autres matchs, il était là. Et il était là, dans le vestiaire, il était là, sur le terrain. Et bien parfois, les joueurs leaders ne sont pas les plus talentueux, mais ce sont ceux qui respectent le plus et l'institution et les supporters. Et pour moi, c'est ça les leaders qui nous manquent à Paris aujourd'hui. Il y a des très bons jeunes, des très bons joueurs. Mais il manque cet entre-deux. Autant de Grinta avec un Gabi Heinze, ce que les joueurs d'Amérique latine ont toujours apporté. Cavani, ça a toujours été un leader, on en parlait, par l'exemple. Le mec qui revenait défendre à chaque coup de pied arrêté contre nous. Et Danilo, c'était l'exemple.
Le couteau suisse, par excellence.
C'était le travail. Et dans le PSG, qui était très bling-bling, ça faisait du bien de voir des joueurs aussi qui incarnaient l'institution qu'on a tous connue il y a 20-30 ans.
Swan, tu dois choisir entre les deux, tu prends qui comme leader, du coup?
Danilo.
Pourquoi?
Moi, j'ai adoré Danilo. Pareil, pour moi, c'était un couteau suisse. On le regardait souvent avec mon père au parc et vraiment, on se disait, mais il est trop fort, quoi. On le voyait courir. En fait, il se donnait, comme un Cavani. C'est quelqu'un qui se donne, qui ne va pas avoir, comme un Messi, les mains sur les hanches, quoi. Il va se donner pour son équipe et pas pour lui-même.
Et surtout, c'était un des rares joueurs à avoir repris un Messi, un Neymar. Ouais. Il les reprenait, t'es gentil, mais tu reviens défendre. Et ça, dans une équipe, il ne faut pas avoir peur de dire les choses à tes joueurs de plus talentueux que toi. Mais parce qu'à un moment, tu joues pour une équipe. Et ça, pour moi, ce joueur, il manque.
Alors, on a posé, c'était la question de notre sondage. Dans quel secteur le Paris Saint-Germain manque-t-il le plus, a-t-il le plus besoin de leader? La réponse, c'est en attaque avec 48%. Swan, François, est-ce que vous êtes d'accord?
Ah bah oui, moi j'avais dit l'attaque, de toute façon, pour moi, c'est ce qui manque. Le milieu est très fébrile aussi, mais moi, il me faut du charisme en attaque, quoi. Il manque de chien.
Ah ben, j'étais à Londres mardi dernier, pour moi c'est en défense. Hein. Franchement, on a pris l'eau tout le match. Il y a Marquinhos, mais on a besoin d'un autre taulier. Et on en parlait, Lucas Hernandez manque énormément.
Ouais. Il revient mi-janvier, c'est ça?
C'est une grosse blessure qu'il a, donc il va falloir du temps également pour se remettre. Pour moi vraiment c'est en défense, parce que c'est très bien d'avoir des bons joueurs en attaque, mais si on prend des buts comme ceux qu'on a pris dernièrement, et hors toute petite parenthèse, c'est bien d'avoir un leader dans la cage. Parce que vraiment, le gardien qu'on a actuellement, malheureusement, c'est pas un leader.
Alors, en Ligue des Champions, oui. En Ligue 1, t'es dur. Franchement, en Ligue 1, il est quand même là.
Mais
t'es dur.
Mais on vise quoi?
Oui, non, mais d'accord.
Non, mais faut se dire les choses. On vise quoi?
Oui, mais hier, il a été là, excuse-moi.
Oui, mais bon, Ligue 1 ou Ligue des Champions, le but qu'il prend contre Arsenal,
oui, bon,
là, la question n'est pas d'être décisif ou pas.
Là, et la balle, elle est de l'autre côté.
Faut me défendre.
C'est question de connaître les bases de ton poste.
Tu préférais Navas?
Ah, clairement. Moi, ça, déjà.
Et moi aussi, je suis d'accord.
Ça, j'ai pas compris qu'on mette Navas, déjà, qu'on se comporte comme on s'est comporté avec lui. Parce que dans l'exemple, dans le palmarès, l'expérience, et juste tout ce qu'il a proposé à Paris, mais le mec, il était indéboulonnable.
Ouais. Et après, il y a un élément à prendre en compte, c'est l'entraîneur aussi. Parce qu'il y a eu des Ancelotti qui étaient très humains, il y a eu d'autres entraîneurs qui avaient un style différent. Là, cette saison et la saison dernière, on a un Luis Enrique. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il étouffe finalement ses leaders et qu'il leur laisse peu de place?
Mais moi, je ne suis pas d'accord. À chaque fois, on me disait, de toute façon, le Paris Saint-Germain, l'entraîneur a peur, il laisse le vestiaire dominer, machin. Et là, on a vraiment un entraîneur qui pousse la voix et qui dit quand ça ne va pas, qui va punir un Dembélé parce qu'il arrive en retard à l'entraînement ou qu'il a tenu des propos pas cool. On a un entraîneur qui peut faire OK, instituteur entre guillemets, mais c'est un entraîneur. Quand on le voit au parc... Enfin, excuse-moi, il est à genoux, il hurle, il jette sa bouteille, il exulte quand il y a un but. Pour moi, c'est ça un entraîneur, c'est quelqu'un qui se donne. Et moi, il est indispensable. Moi, Enrique, je l'adore. Vraiment, je l'adore.
Je crois qu'on a oublié que Tourelle était également un entraîneur très, très exigeant.
Ouais.
Il y a exigeant, mais il y a aussi impressionnant quelque part. Et là, il est témoin peut-être.
Je suis pas d'accord. Tourelle, c'est un entraîneur qui était très dirigiste et qui honnêtement a fait un taf incroyable à Paris.
Ouais.
Et même Unai Emery, alors qu'il était dans un autre style. Mais les gens ont été extrêmement sévères avec Unai Emery parce que le Paris jouait bien. C'est un entraîneur de grand talent, Unai Emery. Et d'ailleurs, on le voit maintenant en Ligue des Champions.
Bah, tous les entraîneurs ont cartonné quand ils sont partis du Paris Saint-Germain, quoi.
Ce qui est pas le cas de tous les joueurs, mais mais les entraîneurs, oui. Globalement, à part Laurent Blanc qui son départ était plus compliqué, la plupart des entraîneurs, quand ils ont peut-être un peu plus de latitude, bah, c'est bien. Après, est-ce qu'il étouffe ses leaders? Si c'est des leaders, je suis désolé, ils sont pas étouffés.
Je suis d'accord.
À un moment au Barça, quand il entraînait le Barça, bah, ses leaders. Alors peut-être que Luis Enrique n'aime pas les leaders, c'est un autre sujet.
Il préfère peut-être plus avoir la lumière lui que les
peut-être. Ah, est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est avoir la main sur le style de jeu? Mais à Barcelone, il avait des leaders. Dans l'équipe d'Espagne, il avait quelques leaders. Busquets, c'était un leader. Pedri l'a fait monter, lui a donné les clés du jeu. Je trouve qu'on est très dur avec Luis Enrique.
La question, c'est est-ce que l'entraîneur doit s'adapter à l'équipe ou est-ce que l'équipe doit s'adapter à l'entraîneur?
Ça c'est une réponse peut-être que à laquelle vous répondrez dans plusieurs COP Paris d'ici là. Allez, on se retrouve après une courte page de pub pour la troisième et dernière partie de COP Paris avec, qui sera consacrée à ce pari fou que se sont lancés deux supporters, un marseillais, l'autre parisien, de rallier à pied le Parc des Princes au Vélodrome et tous les résultats au e-sport de vos clubs franciliens. C'est juste après la pub. C'est la troisième et dernière partie de COP Paris avec un pari pour le moins original. Deux amis supporters, un parisien et un marseillais, se sont lancés l'idée folle de rallier le Parc des Princes au Vélodrome, le tout à pied pour assister au classique Marseille-Paris le 27 octobre prochain, le tout avec un budget d'un euro par jour, voire moins. Et avant de vous présenter Melvin, supporter parisien, teaser de ce qui va leur arriver.
Non, ce qu'il veut lui de bon matin. Ouais, allô?
Alors, le Marseille est compliqué à Strasbourg, quoi?
Mais frérot, c'est des défaites à éviter, ça. Tu as envie de me rendre fou, là, aujourd'hui? Je vais te proposer un défi.
Bah, allez, vas-y, dis-moi, je t'écoute.
Je vais te rejoindre à Paris maintenant, devant le Parc des Princes. Ouais, tout de suite. Et on fait Paris-Marseille à pied pour arriver le 27 octobre devant le stade Vélodrome et assister au match OM-PSG.
J'accepte à 100%. Tu es fatigué ou quoi? Bah, regarde, c'est ce qu'on fait. Je t'attends avec ton maillot, tes affaires. Et je t'attends au Parc des Princes.
Et voici Melvin, supporter parisien. Par contre, moi, je suis déjà fatigué pour toi à l'avance, hein, vu ce qui va t'arriver. Bonsoir, merci d'être avec nous, Melvin.
Merci de m'avoir invité.
Tu vas partir du Parc des Princes mercredi matin, si c'est je ne me trompe pas. Dans quel état d'esprit t'es? Comment tu te sens, là?
Niveau physique, ça va. Niveau mental, je suis boosté à 100%.
Ah ouais? Même
si ça va être compliqué, je pense que ça va être compliqué.
T'as vu le temps qu'il fait en ce moment?
J'ai vu le temps qu'il fait, c'est la merde, mais on va s'habituer, pas de souci.
Alors, t'as 25 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment, explique-nous comment ce projet vous
est venu? Je bosse un petit peu sur les réseaux. Alors, comment ce projet est venu? Autour d'une discussion. Connaissant Romain, c'est un grand supporter de Marseille. Il vit pour Marseille et il m'a proposé de faire Paris-Marseille à pied. Et tout ça pour une cause qui, je pense, nous touche tous, la Ligue contre le cancer. Donc tous les fonds qu'on récoltera à travers ce défi de fou seront reversés à la Ligue contre le cancer.
Alors, vous allez voir sur votre écran, il y aura un QR code qui va apparaître justement pour pouvoir donner des fonds et aider Melvin dans sa quête pour la lutte contre le cancer. Tu peux me dire comment Romain, qui est le supporter marseillais, qui va faire le chemin avec toi, comment vous vous êtes rencontrés, comment ça se passe?
On s'est rencontrés lors d'une soirée, franchement, feeling de fou directement. Et ça a accroché de fou. Et par la suite, il m'a invité à Marseille. Donc du coup, j'ai dormi chez lui, on a pu passer quelques temps en vacances. Et c'est parti de là. Mais franchement, Romain, très très belle personne.
Il t'a invité au Vélodrome ou pas?
Il m'a invité, mais j'avais une soirée, ça veut dire que j'ai pas pu aller au match. Mais après, c'était avec les Ultras, je sais pas s'il m'aurait bien accueilli, mais ouais, il m'a invité. Ouais.
François, Sohan, vous le sentez comment ce défi? Est-ce que vous l'auriez fait?
Non.
Je pense que j'aurais eu du mal à le finir.
Clairement.
Mais ça fait plaisir. La tribune Auteuil, un grand passé de lutte pour toutes ces choses-là. Je me rappelle de matchs, la lutte contre la mucoviscidose, ouais, non, avec les ballons. Le PSG, en tout cas ses supporters, il n'y a pas qu'à Paris, hein, sans doute à Marseille, dans tous les clubs de France, dans le mouvement ultra, beaucoup de travail parce que le foot, c'est également ça. C'est d'abord un impact sociétal. Donc bravo, parce que ça met en lumière des choses très belles et surtout ça remonte que le football, bah, c'est d'abord ça. Donc, par contre, il va falloir tenir.
Je ferai un don, mais je te laisse marcher.
Ouais, c'est bon.
On suivra par la pensée.
Mais est-ce que vous êtes déjà lancé des paris un peu fous comme ça entre amis pour des matchs?
Pour des matchs? Ouais. Alors moi, déjà, je parie pas, je perds tout le temps. Donc vraiment, je me dis, je veux pas m'aventurer là-dedans. Donc non, François, oui, je suis sûr.
Bah, pas tant que ça, parce que je suis très mauvais parieur.
François.
Par contre... Non.
On va éviter. Ils sont pas avouables, c'est ça que tu veux dire?
Peut-être pas. Si on avait gagné avec des champions, ce serait peut-être pas bien fini.
Bon, peut-être qu'en 2020, tu étais proche de faire un pari fou, alors.
Ça aurait été beau.
Melvin, tu penses que tu vas rencontrer quel type de supporters tout au long de la route? C'est aussi le but, c'est de rassembler, c'est de discuter.
Bah, c'est exactement ça, c'est de rassembler les gens autour d'une cause, autour d'une rivalité. Et en fait, on veut juste montrer le bon côté d'une rivalité. Pas forcément qu'il y ait des embrouilles, que ce soit du côté parisien ou marseillais. Et je pense qu'on va rencontrer des gens adorables qui vont, je pense, essayer de nous aider. Et on veut voir aussi ce genre de choses. C'est pour ça qu'on le fait.
C'est génial.
Et tu penses que tu vas rencontrer plus de supporters parisiens ou marseillais sur la route?
En partant de Paris, je pense plus de supporters parisiens.
Mais
c'est mort. Après, c'est mort.
Dans les quartiers nord, ils sont pour Paris.
Ouais, je mettrai pas mon maillot du PSG là-bas.
Et alors, d'ailleurs, question, parce que Romain est un supporter marseillais. Question à vous trois, les supporters parisiens. C'est quoi le club le plus difficile à supporter cette saison? Est-ce que c'est Paris ou c'est l'OM?
Ah non, c'est Paris. Mais moi, ça a toujours été Paris. Franchement, j'ai fait la remontada, j'étais sur place, ce sera Paris tout le temps. À vie. Oui, je vois de la peine dans ton regard.
Je pense que pour les Marseillais, c'est pas si facile en ce moment, parce que c'est l'enflammade au mois d'août, c'est on est champion en septembre, c'est est-ce que c'est un accident en octobre, et c'est est-ce qu'il faut virer le coach en novembre. Les deux clubs sont compliqués.
Ils sont compliqués,
c'est pour ça que chacun les aime autant.
Melvin, tu peux faire ta vie ou celle de Romain, du coup?
Je pense que c'est plus dur de supporter Marseille, parce que c'est tout au long de l'année que c'est compliqué. Nous, c'est que Ligue des Champions, en vrai, que c'est compliqué. Ouais, voilà, exactement.
Ce PSG-OM, d'ailleurs, parce que c'est la finalité de ce défi-là, vous le sentez comment? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on va commencer à se projeter. Vous le sentez comment, vu les résultats actuels, même s'il y a une trêve internationale entre-temps et possiblement des blessés, vous le sentez comment, ce classique?
Je pense que ça va être un très beau match, objectivement, parce qu'il y a des enjeux des deux côtés, des choses à prouver des deux côtés. Donc j'imagine un score serré, mais une victoire du PSG quand même, évidemment. Au moins 2-1, ou 3-1.
Je suis comme elle.
3-2.
C'est tout à fait ça.
Ouais.
Mais ça va être un match serré, en tout cas.
Très beau match, je sais pas. Vu le niveau actuel de deux équipes, il y aura de l'intensité. Il n'y a pas de
bêtises,
je pense qu'on va le gagner. Et on va le gagner. Mais je sais pas si actuellement, les deux équipes sont capables de proposer du beau football. Par contre, il y aura de l'intensité.
Face à face.
C'est un classique, mais... à voir ce que ça donne.
Si.
Moi, je veux pas du beau football, moi, je veux juste la victoire du PSG, c'est tout. Les matchs comme ça, ça ne se joue pas. Ça se gagne.
Alors, il y a un joueur cette saison, plus que les autres, qui personnalise ce classique. C'est Adrien Rabiot. Alors, je sais que dans l'émission, vous en avez parlé brièvement, mais vous n'avez pas forcément donné votre avis sur sa signature à Marseille. Vous, les Parisiens, comment vous l'avez vécu?
Plutôt bien, ça donne enfin de l'intérêt à ce classico. On va le regarder en se disant, tiens, là, on a vraiment envie encore plus de le battre. Parce que les battre, malheureusement pour eux, en fait, c'est une évidence. C'est une évidence, on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas les mêmes équipes. Ce qui fait que c'est même moins drôle. Là, par contre, très clairement, j'ai envie de voir Rabiot courir
en
grande souffrance tout le match,
ouais.
Et voir Véro se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de le faire signer ici? Là, au moins, il y a de l'intérêt. Sinon, c'est vraiment trop facile.
Ce joueur est sympa. Il est sympa à regarder aussi sur le terrain. Franchement, oui, ça rajoute un peu d'enjeu. C'est pas mal. Après, ça va pas changer le cours du match non plus. Ça va pas changer Marseille non plus. Mais c'est une bonne recrue.
D'accord. Melvin?
Bah, comme elle a dit, ça rajoute de l'enjeu. Après, moi, je l'ai vécu un petit peu comme une trahison, parce que il est né au PSG et le voir partir à Marseille comme ça, je le vois un petit peu comme une trahison. Mais après, je pense qu'il a ses raisons.
Et du coup, le 27 octobre, si tu arrives au Vélodrome, ouais, et qu'il y a une victoire de Paris, tu vas fêter ça ou tu resteras tranquille?
Ça dépend. Après, je ne l'ai pas encore annoncé, mais ça serait bien que si, imaginons, un président regarde cette émission, que ce soit El Khalifi ou
Pablo Longoria.
Monsieur Longoria, pourquoi pas, quand on arrive au stade Vélodrome, il nous accueille en grande pompe, et pourquoi pas
toi, tu veux te faire
voir le match en loge.
Il vous invite.
En loge.
Exactement. Et pourquoi pas le Saint Graal, attention, donner le coup d'envoi. Moi avec mon maillot du PSG, lui avec son maillot de Marseille.
C'est compliqué là.
T'inquiète, on va trouver une solution.
Bon, d'ici ce classique, il y aura d'autres rendez-vous importants pour le PSG, notamment en Ligue des Champions. Voici le calendrier jusqu'à la prochaine trêve internationale, celle de novembre. Alors, il y aura la réception de Strasbourg juste après cette trêve actuellement, là, le 19 octobre au Parc des Princes. Puis la réception du PSV en Ligue des Champions. Le 27 octobre, le déplacement à Marseille pour le classique. Puis la réception de Lens le 3 novembre. La réception de l'Atlético de Madrid le 6 novembre. Et enfin, Angers-PSG pour le 10 novembre, le dernier match avant la trêve justement de novembre. Voici ce qui attend le PSG après la trêve. Tout le résultat foot et omnisport de vos clubs franciliens, c'est maintenant et c'est préparé par Kevin Morand.
Dans la douleur, le Racing 92 est allé cueillir une deuxième victoire cette saison à Vannes. Mené 17-10 à la mi-temps par le promu breton, les ciels et blancs sont revenus des vestiaires avec un autre visage et ont fini par s'imposer 27-24 avec 3 essais partout et grâce au jeu au pied de Nolan Le Garec. Le Racing 92 accueillera Toulon samedi après-midi. Le Stade français récolte aussi 4 points qui font du bien, vainqueur dans la difficulté contre Montpellier 29-20. Après 2 défaites et le départ de l'entraîneur en chef Karim Ghezal, les Parisiens respirent un peu avant un déplacement à Lyon dimanche. Première victoire à domicile cette saison pour le Paris Basketball. Après la découverte de l'Euroleague vendredi, les Parisiens recevaient le promu La Rochelle à l'Adidas Arena et ils prennent les devants à la fin du premier quart-temps. Paris gère son avance avec Ward en meilleur marqueur à 16 points. Malgré un rapproché Rochelet en dernière période, les Parisiens s'imposent 84-75, leur deuxième succès en 3 matchs de championnat. Et puis les Parisiennes continuent leur sans faute en première ligue. Victoire 3-0 avec Elise de Almeida en première période, Grace Guillereau et Romé Leuchter qui marquent coup sur coup en seconde période. Après 3 matchs, le PSG est deuxième du championnat à égalité avec Lyon.
Et voilà une victoire parisienne pour terminer l'émission qui touche à sa fin. Melvin, merci d'être venu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce
qu'on peut me souhaiter, c'est déjà d'arriver à l'Aérodrome en vie et un maximum de dons pour l'association parce que je pense qu'il y a des gens qui le méritent.
Merci beaucoup Melvin, merci à vous deux, Swan et François d'être venus. Merci à Jordan Le Sueur, à l'édition, à Fanny Cousin pour la préparation de cette émission. La semaine prochaine, vous aurez rendez-vous avec le vrai leader de cette émission, Julien Taxis. En attendant, très bonne soirée sur BFM Paris Île-de-France et à très vite.